Donc, je remercie beaucoup le professeur Caillé pour cette invitation qui est un grand honneur pour moi. C'est vraiment un honneur d'être à Bordeaux 2 et un plaisir aussi pour moi de retrouver tant d'amis et aussi de rencontrer tant de nouvelles personnes. Je voulais en effet parler de la philosophie et de la vie quotidienne. En effet, j'avais une petite discussion récemment avec le professeur Caillé à propos du titre qu'il avait inventé pour moi, parce que j'étais en retard certainement pour donner le mien, et je lui avais dit mais non, pas du tout, faut-il encore faire la philosophie aujourd'hui, ça n'est pas du tout la question que je me pose. En réalité, depuis, c'est vrai que j'ai eu envie aussi de traiter d'une certaine façon cette question, hein, puisque c'est en effet aussi la question que je me pose, qu'en tout cas, quelle philosophie on peut encore faire aujourd'hui, dans la mesure où on n'a plus de grands systèmes philosophiques comme dans la tradition, hein, et pourtant, la science n'a évidemment pas, je pense que les scientifiques qui sont ici présents le savent mieux que beaucoup d'autres, la science n'a pas du tout non plus remplacé la philosophie. Mais si on veut garder une place pour la philosophie maintenant, c'est en effet dans cette tradition donc que j'ai explorée, hein, comme vous l'avez rappelé depuis pas mal d'années, c'est cette tradition qui vient de Wittgenstein, hein, qui est le penseur un peu emblématique pour moi, avec Cavell, dont je parlerai beaucoup aussi, ce que dit Wittgenstein dans son premier ouvrage, hein, qui est le Tractatus Logico-Philosophicus, c'est que, de fait, il ne veut pas proposer de thèse en philosophie, hein, que sa philosophie n'est pas théorique, hein, n'est pas un ensemble de thèses, mais cherche simplement à élucider, en fait, à clarifier, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, peut-être, et c'est là, donc, que c'est une philosophie de la vie quotidienne, du quotidien ou de l'ordinaire, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de clarifier ses propres pensées, hein, plutôt qu'essayer, donc, d'avoir une grande théorie du monde et essayer, donc, de savoir un peu ce qu'on pense, ce qui n'est pas du tout si évident, et pour reprendre une expression de Stanley Cavell dont vous parliez, ce qu'il faut essayer de faire, c'est penser ce qu'on dit ou vouloir dire ce qu'on dit. Il y a un titre d'un livre de Stanley Cavell qui est difficile à traduire, qui s'appelle « Must we mean what we say ?» et c'est ça un peu la question, c'est comment est-ce qu'on peut signifier, penser ou vouloir dire, hein, en un seul mot, quelque sorte, ce qu'on dit. Hein. Et donc, pour arriver à cela, de fait, il ne faut pas peut-être prendre une position en surplomb ou chercher la réponse à des grandes questions. Hein. Donc, tout ce que fait Wittgenstein dans l'ouvrage que je mentionnais, le Tractatus, c'est de dire que ça n'a pas de sens, hein, de chercher ce genre de réponse. Et peut-être que ce que la philosophie peut nous apprendre, donc, c'est une attention à la vie quotidienne et à la vie ordinaire. Et c'est aussi quelque chose que Wittgenstein a constamment proposé de faire, non pas dans son premier ouvrage, le Tractatus, mais dans sa seconde philosophie, c'est ramener les questions philosophiques, donc, comme il le dit, du ciel de la métaphysique au sol, hein, sur le sol de la vie ordinaire, et aussi donc du langage ordinaire, puisque c'est le langage ordinaire, celui qu'on parle tous les jours, hein, là aussi, comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est ce langage qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est réellement donc l'ordinaire. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de faire cette exploration un peu de cette notion d'ordinaire, donner une première définition de cette notion, si c'est possible, et essayer ensuite de voir comment, hein, ou dans quelles circonstances, dans quel lieu on peut trouver donc cette vie ordinaire, sachant donc que l'ordinaire n'est pas d'une part quelque chose d'évident, de saisissable, et ce n'est pas non plus un concept, c'est plutôt une sorte de thématique que l'on trouve dans un certain nombre de courants philosophiques. Et il me semble que ce sont ces courants qui pourraient définir aussi ce qui se fait d'original, de novateur en philosophie aujourd'hui. Mais pour comprendre donc cette nature de l'ordinaire, il faut déjà ne pas considérer que l'ordinaire, on sait ce que c'est et que c'est complètement évident. Et il faut plutôt donc percevoir ce que Stanley Cavell nomme en s'inspirant là encore David Gershwin, ce qu'il appelle donc l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire, hein, the uncanniness of the ordinary. Je m'excuse, il y aura plusieurs expressions anglaises comme cela. Et donc cette inquiétante étrangeté de l'ordinaire, c'est le point de départ de sa réflexion sur l'ordinaire. Que très souvent, si vous avez fait de la philosophie au lycée ou ailleurs, vous avez bien constaté que on partait souvent du sens commun ou des croyances ordinaires, et très souvent la philosophie était là pour dépasser ces croyances, pour dire bon ben, d'abord on croit ça, mais en fait il faut réfléchir un peu plus et on arrive à une position plus plus réfléchie, plus élaborée. Toute la tradition philosophique se construit en partie, avec toujours une tendance contraire aussi, mais toute la tradition philosophique se construit dans cette critique donc de l'ordinaire. Et ce que propose Cavell, c'est plutôt d'inverser ce mouvement, hein, et de nous attirer vers l'ordinaire, d'une part en faisant attention à l'ordinaire, mais d'autre part en se rendant compte que cet ordinaire qu'on pense toujours dépasser, eh bien, on ne le connaît pas. Et ce que c'est donc que, par exemple, le langage ordinaire est quelque chose de très étrange, et se rendre compte qu'il est ordinaire, c'est aussi, et en même temps, se le rendre étranger. Je voulais mentionner le nom d'une anthropologue que certains ici connaissent bien, qui s'appelle Veena Das, qui est une anthropologue indienne qui utilise beaucoup Cavell dans son travail. À laquelle Cavell a écrit aussi une préface de son dernier livre, qui s'appelle Life and Words, de Veena Das. Cette anthropologue s'est intéressée à Cavell pour cette dimension aussi d'étrangeté de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est quelque chose que nous nous rendons constamment étranger, et Cavell et Veena Das reprennent constamment cette image qu'on a chez Wittgenstein du philosophe. Alors c'est une image qu'on a aussi chez Quine d'ailleurs, donc c'est un peu les deux images qui m'ont toujours intéressé, le philosophe comme, disons, arrivant dans une tribu étrangère, au milieu d'une langue qu'il ne comprend pas et pour lequel il n'y a pas de dictionnaire, de traduction, etc. Cette tribu, en fait, d'étrangers, c'est aussi nous, c'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à faire, c'est voir son langage ordinaire, voir le langage que nous parlons comme à la fois donc proche et étranger. Donc c'est cette intersection du familier et de l'étrange qui crée cette dimension anthropologique, qui intéresse aussi les anthropologues, de cette pensée de Wittgenstein. C'est quelque chose que Cavell a très bien résumé en appelant la perspective anthropologique de Wittgenstein une perplexité devant tout ce que les humains peuvent dire et faire. Et il ajoute, donc par moments, rien du tout. Et l'ordinaire, donc, est quelque chose d'abord d'énigmatique, donc ça n'est pas exactement ce qu'on peut appeler d'habitude le sens commun, puisque donc il n'est pas déterminé par un ensemble de croyances, tout simplement parce que si on essaye aussi de dire qu'est-ce que c'est que le sens commun, d'énumérer les croyances qui vont constituer ce sens commun, eh bien, on va se trouver en grande difficulté et on va, là encore, tomber dans le non-sens. C'est une critique que Wittgenstein faisait à Moore, hein, un de ses collègues, qui avait voulu faire une liste des propositions du sens commun, mais on peut essayer, mais c'est très difficile. Ça n'est pas non plus un partage de dispositions. Et donc, une piste pour définir l'ordinaire, c'est effectivement ce langage ordinaire, cette capacité qui est là aussi à la fois ordinaire et étrange à parler ensemble, à se comprendre, hein, et donc ce partage, ce langage commun et le fait donc qu'il y a un accord dans le langage et qu'on acquiert ce langage aussi, donc en étant plongé donc dans le langage existant, hein, comme le dit Wittgenstein au début des recherches philosophiques, hein, quand il imagine la situation de quelqu'un qui apprend à parler en entendant des sons, donc des paroles ordinaires autour de lui. Là aussi, situation anthropologique, hein, d'une certaine façon. Et donc, ce langage ordinaire est le moyen de comprendre ce que c'est, donc, que l'ordinaire, hein, c'est cela, l'entrée. L'entrée dans l'ordinaire, hein, et donc revenir au langage ordinaire, ça n'est pas essayer de découvrir une signification authentique ou originelle des mots, mais c'est arriver à comprendre que les mots n'ont précisément de signification que lorsque ils sont, comme dit Wittgenstein, utilisés, hein, qu'ils ont un usage, c'est-à-dire qu'ils ont un usage, donc un usage humain, hein, qu'ils sont pris dans des situations de la vie ordinaire. Donc il n'y a pas de signification au sens strict donc du langage, en tout cas des expressions, hein, les expressions n'ont de signification que par ce que nous en faisons, hein, et c'est ce que Wittgenstein résume dans sa phrase, c'est ce que les hommes disent, hein, qui est vrai et faux, et ils s'accordent dans le langage. Hein. Alors cet accord dans le langage, hein, le mot « dans » évidemment très important, puisque cela implique qu'il n'y a pas un accord à un moment qui va se faire, comme quand on s'accorde sur quelque chose, mais que l'accord est toujours déjà là, hein, qu'il est constitué par le fait même, hein, donc de parler. Donc à partir de ce rapport au langage ordinaire qui émerge chez Wittgenstein, donc Cavell a pensé donc de façon plus générale la notion de l'ordinaire. Hein. Et ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment penser donc la philosophie américaine, hein, et c'est ce qui m'a conduit pour ma part à explorer aussi ce champ de la philosophie, hein, dans la philosophie contemporaine. Il a voulu explorer la pensée américaine dans son invention de ce thème de l'ordinaire, et donc en reprenant cette tendance invétérée qui est à la fois la dénégation de notre langage ordinaire et de notre caractère donc ordinaire, et la prétention philosophique à savoir ce que c'est donc que l'ordinaire, hein, d'y renvoyer directement. Et donc, c'est dans cette perspective qu'il faut inscrire vraiment la façon dont Cavell a toujours voulu réhabiliter une certaine tradition de la pensée américaine comme pensée de l'ordinaire. Alors, c'est assez paradoxal de mettre ensemble deux traditions qui apparemment n'ont rien à voir l'une avec l'autre, puisque la tradition de la philosophie du langage ordinaire, donc Wittgenstein et Austin, c'est une certaine tradition philosophique qui est un peu une sorte de seconde philosophie analytique. De l'autre côté, vous avez cette philosophie de la vie ordinaire qui est antérieure, hein, qui est donc dans le 19e siècle américain. Et donc, pour penser l'ordinaire, la vie quotidienne, eh bien, Cavell met ensemble ces deux traditions, et c'est cela donc qui donne toute l'originalité de sa pensée, et c'est cette manière qu'il va avoir de repenser donc cet appel à l'ordinaire à partir de cette tradition américaine. Alors, ce qui est très, très frappant dans cette tradition de la philosophie américaine du 19e siècle, là aussi, certains connaissent cela très bien, ici, donc, ce sont des penseurs comme Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, dont on parle beaucoup. J'ai de la chance parce que quand j'ai commencé à parler Thoreau, ça n'intéressait pas grand monde. Maintenant, comme Thoreau est le premier penseur de la désobéissance civique, évidemment, il a eu une sorte de nouveau, de nouvelle vie, et du coup, on commence à s'intéresser plus à ces auteurs. Et ce qui est très très frappant chez Emerson et Thoreau, c'est donc qu'ils ont voulu fonder de nouveau la philosophie en Amérique en revendiquant une sorte d'indépendance intellectuelle de l'Amérique par rapport à la tradition européenne, et donc tradition philosophique, la grande philosophie dont je parlais en commençant. Et donc, ce qu'ils ont voulu, c'est essayer de s'approprier quelque chose comme une pensée de l'ordinaire contre, disons, la sublimité héritée de l'Europe. Et donc, il y a un passage très célèbre d'Emerson dans un discours qui s'appelle « The American Scholar », donc le savant américain ou l'intellectuel américain, si on veut traduire ça comme ça, où Emerson dit « Je ne demande pas le grand, le lointain, le romanesque, ni ce qui se fait en Italie ou en Arabie, ni ce qu'est la grecque, ni la poésie des ménestrels provençaux. J'embrasse le commun, j'explore le familier, le bas, et suis assis à leurs pieds. Donnez-moi l'intuition d'aujourd'hui, et vous aurez les mondes antiques et à venir. » Et donc, là, vous avez en effet la revendication de quelque chose qui serait la vie ordinaire, et là c'est quelque chose qui n'est pas le sens commun de la tradition philosophique anglaise, par exemple, dans l'empirisme, mais vraiment une pensée qui va vouloir s'attacher à l'ordinaire et en donner une description à travers des catégories spécifiques qui seraient notamment le bas, le proche, qui s'opposent au grand et au lointain. Et ce que propose donc Emerson dans la phrase suivante, c'est: de quoi voudrions-nous vraiment connaître le sens? De la farine dans le carton, du lait dans la casserole, de la balade dans la rue, des nouvelles du bateau, du coup d'œil, de la forme et de l'allure du corps. Ça, c'est un passage frappant, puisque vous avez une sorte de grammaire là de la vie ordinaire qui est donnée, non pas par des concepts, mais par des exemples, des flashs, la casserole, la rue, ou aussi la forme et l'allure du corps, donc les aspects aussi là, des choses. Et vous avez là aussi la revendication d'une culture américaine propre qui serait fondée sur ces objets ordinaires. Et d'ailleurs, si vous regardez cette liste, c'est aussi les objets privilégiés de la photographie et ensuite éventuellement du cinéma américain, donc quelque chose qui est une sorte de lieu de l'esthétique, de l'ordinaire, comme s'il fallait renoncer en fait à un art européen sophistiqué pour annoncer donc un art ordinaire qui serait proprement américain. Je cite un Cavell qui aime beaucoup ce passage et qui parle donc de la liste dans The American Scholar des choses donc dont il faut connaître la raison ultime. Et dit-il, c'est une liste qui résume ce que nous pourrions appeler la physionomie de l'ordinaire, une forme de ce que Kierkegaard appelle la perception du sublime dans le quotidien. Donc là, il s'agit effectivement de trouver une esthétique propre de l'ordinaire, donc une sorte de sublime de la vie ordinaire, et aussi une physionomie, c'est-à-dire donc vraiment des éléments de perception du réel, quelque chose qui serait comme l'allure, l'allure spécifique de la vie ordinaire. Alors, c'est un objet totalement nouveau, c'est pas du tout quelque chose qui soit dans la tradition philosophique, et donc c'est quelque chose qui nécessite de nouveaux outils de description et même donc de perception. Donc là, la question transcendantale classique se transforme, puisque la question n'est plus de connaître la raison ultime des phénomènes de la nature, mais plutôt d'arriver à une description de la vie ordinaire et de ses détails, de ses particularités. Et c'est une description qui ne peut pas être avec des concepts généraux, puisque la vie ordinaire est toujours particulière. Ce sont donc des situations spécifiques. Et pour la décrire, de fait, les concepts de la philosophie classique, donc la philosophie européenne que rejette là Emerson, ne vont plus être opérationnels et il faut d'autres concepts. Et ce seront ceux d'autres concepts ou d'autres modes de description que les concepts. Et donc, ces modes de description, ce seront justement la photographie, le cinéma, dont Cavell a énormément parlé, dont je parlerai ensuite, et ce sera aussi, dans un tout autre domaine, mais pas si différent, la description anthropologique ou sociologique de la vie ordinaire qui s'est développée aussi en Amérique au XXe siècle. Et donc, la question, c'est vraiment celle de la description et de la perception de l'ordinaire, mais c'est une question qui est aussi celle de la démocratisation, on va dire, de la perception elle-même. Je vous cite encore un morceau de The American Scholar, parce que c'est un texte qui est très, qui est très important, y compris important aujourd'hui dans la culture politique américaine. Donc l'un des signes, alors c'est l'un des signes de la démocratisation, est le fait que le même mouvement qui a produit l'élévation de ce qu'on appelait la plus basse classe de l'État a pris en littérature un aspect très marqué et tout aussi heureux. Au lieu du sublime et du beau, c'est le proche, le bas, le commun qui ont été explorés et poétisés. La littérature du pauvre, les sentiments de l'enfant, la philosophie de la rue, la vie domestique, tels sont les sujets du jour. Donc là, ce sont ces objets qu'il va falloir simplement voir, arriver à décrire. Et pour cela, donc, il faut une perception nouvelle et un langage qui est, de fait, le langage ordinaire et arriver, donc, à une meilleure expression, une expression suffisamment précise pour décrire ces objets. Donc, de fait, cela doit conduire à réinventer quelque chose comme une philosophie transcendantale pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, mais en suivant ses propres modalités qui ne vont pas être des catégories. Donc c'est un transcendantal sans catégorie et qui sera plutôt donc un transcendantal de l'humeur, des moods, des caractères et donc des objets ordinaires. Et donc, c'est ça qu'il faut inventer, c'est un accès à l'ordinaire et un mode spécifique d'approche d'une nature qui est nouvelle. C'est ce que Emerson appelle dans un autre essai qui s'appelle Experience, This New Yet Unapproachable America, cette nouvelle Amérique, inapprochable, et donc pour laquelle le mode conceptuel d'accès à la nature élaboré par l'Europe n'est plus opérant, et donc il faut une sorte de nouvelle école du langage. Alors, c'est aussi ce que propose Thoreau dans Walden, si vous avez lu cet ouvrage. Walden propose aussi qu'il y ait des écoles, alors il appelle ça uncommon schools, des écoles non communes où on apprenne, enfin peu communes, donc où on apprenne précisément l'attention à la vie ordinaire. Il ajoute, il est temps que les villages soient des universités. Le monde sera-t-il à jamais confiné en un Paris ou un Oxford? Ne pourrait-il pas prendre ici en pension des étudiants pour qu'ils reçoivent une éducation libérale sous le ciel de Concorde? Alors Concorde, c'est là où Thoreau a construit sa cabane, donc au bord de l'étang de Walden. Donc c'est cela, en fait, le sens du retour au langage ordinaire, c'est donc arriver à vouloir dire vraiment, comme je le disais en commençant, vouloir dire ce qu'on dit, donc découvrir ce que nous disons et, je cite encore Cavell, donc comprendre, découvrir le lieu exact d'où c'est dit, comprendre pourquoi c'est dit de ce lieu précis, ici et maintenant. Et c'est cela, donc, l'enseignement, la méthode donc du langage ordinaire, c'est voir pourquoi, quand nous disons ce que nous disons et dans quelles circonstances. Donc là, on retrouve la thématique de Wittgenstein, donc, et d'Austin. Et donc, là, on comprend qu'il ne s'agit pas, en effet, de découvrir une sorte de signification cachée. C'est ça, en fait, l'intérêt de la notion d'ordinaire, puisque ce que nous apprend, en fait, cette pensée de l'ordinaire, c'est que tout est, il n'y a rien de caché, en fait, tout est déjà, donc, devant nous. C'est quelque chose que David Gunstein, très bien dans les recherches philosophiques, il va dire que ce qui nous échappe dans l'ordinaire, ce n'est pas ce qui est éloigné, mais c'est justement ce qui est proche de nous, c'est-à-dire que c'est en fait ce qui est sous nos yeux, les choses les plus quotidiennes, nous échappent pour cette raison même. Ce que nous fournissons, David Gunstein, ce sont à proprement parler des remarques concernant l'histoire naturelle de l'homme, non pas cependant des contributions relevant de la curiosité, mais des constatations sur lesquelles personne n'a jamais eu de doute et qui n'échappent à notre conscience que parce qu'elles sont en permanence devant nos yeux. Donc je pense que c'est ça le point vraiment important de cette philosophie de l'ordinaire, et qui émerge donc en Amérique, que l'on retrouve chez Wittgenstein, chez Austin, que l'on retrouve chez Cavell, c'est donc cette idée que c'est précisément parce que quelque chose est devant nous qu'on ne le voit pas, et c'est évidemment un principe directeur aussi de toute une approche sociologique qui est la sociologie de la vie ordinaire, puisque c'est exactement ce que dira aussi, là au XXe siècle, un sociologue comme Erving Goffman, lorsque il voudra décrire ces catégories aussi de la vie ordinaire. Et cela renvoie aussi, pour ceux qui connaissent donc ces passages-là, ce texte-là, à beaucoup de formulations de Michel Foucault. Il y a une conférence de 78, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, où il dit « Il y a longtemps qu'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui est précisément visible, c'est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes, qu'à cause de cela, nous ne le percevons pas. » Donc c'est ça la différence entre la science et la philosophie, si on veut essayer de l'établir, c'est que c'est vrai que la science continue à vouloir nous montrer donc ce qui est invisible, finalement, et c'est fonctions, alors que la philosophie est plutôt de nous faire voir ce qui est visible. Et ce que nous apprend la philosophie de la vie ordinaire, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que de voir, justement, de voir le visible. Et c'est cela, donc, qui va constituer l'ordinaire en objet de réflexion, ou alors, pour prendre un terme qu'on va retrouver dans la philosophie américaine, en objet d'enquête. Ce mot d'enquête permet aussi de bien comprendre ce que c'est que l'ordinaire. C'est-à-dire que l'ordinaire est toujours objet d'enquête, il n'est jamais un donné, et donc il faut vraiment donc arriver à trouver un système d'accès à l'ordinaire. Alors, il y a un texte d'Emerson qui est très très passionnant, donc qui s'appelle l'expérience, l'expérience, où il essaye de faire une liste des catégories de la vie ordinaire pour essayer de mettre en place cet accès à la vie ordinaire. Alors, au lieu d'appeler cela des catégories, il appelle ça des lords of life. Alors, ça peut faire rire, mais c'est une belle expression. C'est donc les seigneurs de la vie. Et donc, il commence son essai en disant « Les seigneurs de la vie, je les ai vus passer. » Donc, pareil et différent, massif et sinistre. Et la liste, c'est usage et surprise, surface et rêve, succession alerte et dommage spectral. Donc, c'est quand même une liste de catégories qui ne ressemble pas exactement à la liste kantienne de la causalité, la substance, la totalité. Mais il y a vraiment chez Emerson l'idée donc qu'un nouvel ensemble de concepts, entre guillemets, doit être inventé pour décrire la vie ordinaire, ce qu'il appelle donc ces matériaux divers épars sur le sol, qui permettraient de construire justement un nouvel homme ordinaire. Et donc, si Emerson se contentait de reprendre et de moderniser les catégories kantiennes, on ne serait pas vraiment avancé. C'est pas la peine d'avoir une liste modernisée des catégories. L'idée est plutôt de transformer notre mode d'accès au réel et, comme le dit donc Emerson, d'arriver en fait à domestiquer, alors à tous les sens du terme, domestiquer la nature, hein, arriver à la fois donc à la maîtriser, mais aussi à devenir ordinaire et domestique, et à définir le rapport au monde, non pas donc comme une sorte de saisie théorique générale, comme ça a été le cas, donc, bon, par exemple chez Kant, mais avant et après lui aussi, mais c'est plutôt donc de définir le rapport au monde, non pas donc comme une connaissance, mais comme une sorte de proximité et d'accès aux choses, hein, ce qu'indique donc là aussi la notion, par exemple, d'attention. C'est aussi pour cela que, par ailleurs, je me suis intéressée à un certain mode de la pensée morale qui s'appelle en anglais le care, hein, care, faire attention, s'occuper d'eux, puisque c'est un mode de rapport aux choses qui n'est pas justement la maîtrise ou la connaissance, mais c'est juste la proximité, hein, et donc le voisinage du réel et sa reconnaissance donc comme justement près de moi, mais également séparé. Qu'entend l'expression, le mot anglais next, comme dit Emerson, signifie ça en fait, c'est à côté et c'est proche et séparé à la fois. Et donc ce que propose Emerson, et c'est la révolution un peu conceptuelle, hein, qu'il a accompli, ça n'est pas seulement une sorte de redistribution des catégories, mais une façon de repenser ce que c'est donc que l'expérience ordinaire, puisque il ne s'agit pas en fait d'appliquer des catégories à l'expérience, mais donc plutôt d'être capable, hein, d'arriver à être touché par l'expérience elle-même, puisque les Lords of Life, hein, les seigneurs de la vie, ne vont pas gouverner notre expérience, mais vont émerger d'une certaine façon, hein, donc de cette expérience elle-même. Et donc la question fondamentale, hein, et c'est cela en fait celle de la philosophie de l'ordinaire, c'est la question d'arriver à avoir une expérience. On va retrouver d'ailleurs cette question dans le pragmatisme américain, notamment chez un penseur très très important qui hérite de ces problématiques, qui s'appelle John Dewey. Et donc la question transcendantale n'est plus de savoir comment connaître à partir de l'expérience. Hein, c'est ça la question transcendantale classique, c'est de dire, bon, ben, on a une expérience, c'est ce qu'on a chez Hume, hein, dans l'empirisme. On a une expérience, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à tirer de la connaissance de cette expérience? Et à partir de là, vous avez toutes les interrogations épistémologiques, hein, ou sceptiques, consistant à demander, mais comment est-ce qu'on peut connaître quoi que ce soit à partir de l'expérience, et donc est-ce qu'on peut-être qu'on ne connaît rien du tout. Et donc le génie de toute cette philosophie de l'ordinaire, de dire que le problème n'est pas là, mais le problème est d'arriver tout simplement à avoir une expérience. C'est le titre d'un essai de Dewey, justement, Having an Experience, c'est cela donc la question, hein, c'est plutôt notre incapacité d'avoir une expérience. Ce que dit Emerson et ce que reprend Cavell, c'est que notre problème n'est pas d'être ignorant, mais d'être inexpérimenté, unexperienced. Chez Emerson, le problème est plutôt d'arriver à avoir une expérience et arriver à être touché, donc arriver à être touché par quoi que ce soit. Et Emerson décrit dans Experience ce qu'il appelle la part la plus ignoble de notre condition, qui est cette évanescence du réel qui nous glisse entre les doigts au moment où, et parce que nous tentons donc de la gripper. Et donc, vous avez là une sorte de transformation chez Emerson du transcendantal kantien, hein, puisque on a donc une synthèse qui va s'opérer vers non pas vers le haut, mais vers le bas, hein, dans l'immanence, donc dans l'immanence elle-même, et dans l'attention, donc, au particulier, donc, et à l'ordinaire, puisque l'ordinaire, s'il y a cette inquiétante étrangeté de l'ordinaire, eh bien, c'est que l'ordinaire est précisément ce qui nous échappe et qui est au loin, précisément parce que nous cherchons à nous l'approprier au lieu, donc, d'être tout simplement sensible aux choses, hein, et donc d'avoir une expérience ordinaire. Alors, vous voyez qu'on parle souvent de cette pensée en appelant, d'Emerson et Thoreau, en appelant ça transcendantalisme, hein, eux-mêmes d'ailleurs le disent, mais ce serait un meilleur nom, en fait, à donner que de parler plutôt d'empirisme, hein, d'empirisme et même d'empirisme radical. C'est quelque chose qui est repris chez William James, hein, qui reprend à Emerson justement cette dimension passive de l'expérience, hein, dans tous ses essais sur la réalité. Et j'y insiste, puisque évidemment, cette reprise aussi de cet empirisme radical chez William James, c'est le frère de Henry James, le romancier, donc, est quelque chose qui a également été repris dans l'anthropologie, enfin la sociologie plutôt, de Irving Goffman, hein, qui reprend exactement ce projet de description de l'expérience elle-même dans son ouvrage sur l'analyse, hein, l'analyse de cadres, hein, les cadres de l'expérience. C'est-à-dire que l'idée de la nécessité de revenir à la particularité de l'expérience, donc de l'expérience ordinaire, est un projet qui est à la fois donc linguistique, hein, l'approche des usages ordinaires du langage, qui est aussi donc un projet philosophique, hein, avec Austin et Wittgenstein, et qui est également donc un projet sociologique, hein, donc toute la sociologie qui s'intéresse à donc la vie ordinaire et à notre capacité aussi d'avoir une expérience donc dans la vie sociale. Alors, ce qui est donc extrêmement important dans cette question de la vie ordinaire, hein, et de ce rapport à l'expérience, hein, c'est donc la notion de confiance aussi dans sa propre expérience, puisque vous ne pouvez donc avoir une vraie expérience, hein, avoir réellement une expérience, si en effet vous avez donc une confiance dans cette expérience ordinaire. Et c'est cela, de fait, qui va définir quelque chose qu'on pourrait appeler la pratique, hein, et une démarche réellement empirique. Alors là, il y a en fait deux directions possibles pour explorer ce rapport à l'expérience que l'on a chez Emerson et Thoreau. Il y a une première dimension, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, et on pourra en discuter, mais je ne vais pas la développer. C'est évidemment la question de la confiance en soi, et donc peut-être une lecture politique, hein, les implications politiques de la confiance en son expérience, hein, puisque la démocratie n'est possible, hein, dans le contexte américain que parce qu'il y a cette confiance donc en l'expérience, donc en l'expérience de chacun. Ce que Emerson appelle la confiance dans sa constitution, dans un jeu de mots qui vous montre le lien qu'il y a là entre le subjectif et le politique. Donc là, il y aurait une première exploration possible donc de la confiance en l'expérience que je ne vais pas présenter. Il y a une autre implication possible, donc, mais qui est évidemment liée et qui a été vraiment développée de façon très importante, très intéressante chez Cavell. C'est donc ce qu'il a examiné de l'expérience cinématographique, hein, de la façon dont le fait d'aller au cinéma, d'aller voir des films, est quelque chose aussi qui permet de d'examiner sa propre expérience et donc d'inscrire donc cette confiance en l'expérience. Alors cela paraît toujours curieux de penser que Cavell a travaillé sur Wittgenstein, Austin, également sur Shakespeare, bon, sur Emerson et Thoreau, et également a écrit tous ses ouvrages sur le cinéma comme si c'était une espèce de hobby. En réalité, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement lié, et c'est ce lien donc que je voudrais présenter pour finir. D'ailleurs, Cavell dit parfois que, évidemment, chaque fois qu'il fait une conférence sur le cinéma, on lui demande comment il est possible qu'un philosophe se soit intéressé au cinéma, et qu'il est toujours très très étonné par la question, dans la mesure où la question qu'il s'est toujours posée, donc lui-même, c'est plutôt, enfin pour lui, hein, ce que montre son autobiographie, c'est si comment quelqu'un qui a grandi, qui a constitué son expérience en allant au cinéma, s'est ensuite intéressé à la philosophie. Hein. C'est-à-dire c'est plutôt cela, l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est cette expérience du cinéma qui l'a évidemment donc conduit à un certain type de philosophie très spécifique, hein, qui est justement une philosophie de l'ordinaire, parce que le cinéma s'est saisi d'emblée de cette capacité de description, de représentation de la vie ordinaire. Et donc, dans son livre qui est consacré aux comédies de Hollywood, qui s'appelle « À la recherche du bonheur », Cavell examine ce qu'il appelle le fait de contrôler son expérience, c'est-à-dire d'examiner sa propre expérience, ce qui veut dire, en fait, non pas donc essayer d'appliquer soi-même ses concepts, comme dans la, disons, dans la vision critique de l'intellectuel classique, hein, mais, comme il le dit, de laisser à l'objet qui vous intéresse le soin de vous apprendre à le considérer. Ce qui veut dire à la fois, donc, laisser à l'objet que vous observez la fonction de vous éduquer et aussi éduquer votre propre expérience. Et donc, pour Cavell, et c'est ça l'angle de sa lecture, donc c'est pas du tout un angle de critique du cinéma dans la, disons, de type européen. C'est puisque ce qui l'intéresse, hein, ce qu'on appellerait maintenant l'esthétique de la réception, hein, si on veut employer ce genre de concept, mais ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'expérience que nous avons du cinéma. Et cela signifie pour lui un déplacement radical de l'objet de l'enquête, hein, c'est toujours une question d'enquête, de l'objet à l'expérience que j'ai de l'objet, et donc l'intérêt que je porte à ma propre expérience, hein, ce qui implique de pouvoir se fier à l'expérience de l'objet afin de trouver, là encore, c'est la question du langage ordinaire, puisqu'il s'agit ensuite de trouver les bons mots, hein, les mots justes, hein, trouver le ton adéquat pour décrire et exprimer cette expérience. Hein. Et pour Cavell, c'est vraiment la vision répétée des films, par exemple, ou l'exploration d'un genre, ou le fait de suivre, par exemple, bon, comme on le fait souvent, de suivre, hein, par exemple, un metteur en scène, mais aussi les différentes incarnations d'un acteur. Donc, c'est la vision des films qui va conduire à faire confiance en sa propre expérience et à acquérir par là même une autorité sur elle. Et il ajoute donc que c'est une tâche qui fait intervenir le concept autant que l'expérience et que l'on peut appeler contrôler son expérience. Et là, il renvoie précisément à l'empirisme, dit-il, que pratiquent Emerson et Thoreau. Hein, donc, pour lui, ce sont des empiristes au sens où ils s'intéressent à cette façon d'avoir confiance en son expérience pour l'éduquer. Hein, et il ajoute, sans cette confiance en notre expérience, qui s'exprime par la volonté de trouver des mots pour la dire, nous sommes dépourvus d'autorité dans notre propre expérience. Donc, la confiance en soi consiste à découvrir en soi, donc dans sa constitution, la capacité à avoir une expérience et aussi donc à arriver, évidemment, à trouver les mots, hein, ce qui veut dire arriver à trouver le ton juste. Hein. C'est quelque chose que Cavell aussi prend très souvent à Emerson, hein, c'est cette idée que le langage, alors justement quand il est utilisée sans réflexion, sans vouloir dire ce qu'on dit, est quelque chose de désespérant. Hein, il cite un passage d'Emerson qui dit de ses contemporains, leur deux n'est pas le véritable deux, leur quatre le véritable quatre, et donc chacun des mots qu'ils disent nous chagrine. Alors, si je cite ce passage, pour faire comprendre en fait ce que cherchent Emerson et Cavell là, qui est donc un langage qui ne nous chagrine pas, contrairement à, disons, la plupart des choses qu'on entend, et qu'est-ce qui va faire que les mots justement ordinaire là cette fois au sens justement au sens premier du terme, beaucoup de mots ordinaires vont justement nous désespérer, c'est parce que ils n'arrivent pas précisément à cette justesse de ton que l'on cherche dans le langage, et donc arriver à exprimer et décrire l'expérience ordinaire, c'est arriver à trouver donc une tonalité juste dans la description. Là, évidemment, on peut penser aussi à tout le passé, enfin toute la première carrière de musicien. Alors, je voulais évidemment parler un peu de la musique avec la présence de mes parents dans la salle. Je crois que ce qui est très très intéressant dans ce rapport de Cavell à la musique, ce n'est pas du tout ce qu'il peut avoir à dire, même si c'est passionnant par moments sur la musique, mais c'est plutôt la façon dont il essaye de définir en fait ce qu'il cherche dans l'analyse du langage, dans l'examen des usages. Il cherche quelque chose qui est en fait quelque chose de musical aussi, c'est-à-dire arriver à trouver le ton juste, arriver à trouver le ton juste exactement comme il faut arriver à trouver le ton juste, à chanter juste, à jouer juste, à trouver la bonne interprétation, la bonne lecture, c'est-à-dire qu'il y a une justesse là qui n'est pas évidemment l'adéquation entre une description et une réalité comme dans la philosophie traditionnelle ou comme dans la philosophie analytique première, mais c'est un mode d'adéquation qui est effectivement celui d'arriver donc à trouver le ton juste, arriver à vouloir dire ce qu'on dit, à être réellement dans sa parole. Et c'est la chose évidemment la plus difficile à obtenir, c'est évidemment cette justesse, ce qu'on appellerait dans un langage plus technique maintenant, cette pertinence, la façon d'arriver à parler de façon juste et de façon adéquate. Alors, si on veut donc arriver à exprimer de façon juste, avec le ton juste, donc cette expérience ordinaire, eh bien, on s'aperçoit donc que c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui a été exploré dans toutes sortes de domaines. Je le disais pour la sociologie, on peut penser à William James qui essaye de décrire cette expérience avec les outils de la psychologie, d'une description de la psychologie là aussi ordinaire, et évidemment à son frère Henry James qui essaye d'avoir cette description là aussi, ce temps juste très laborieusement recherché dans la description littéraire du détail de la vie ordinaire ou des affects, des sentiments. Et donc, si on veut essayer de décrire ce que c'est que l'expérience ordinaire, eh bien, la seule proposition que fait Cavell, c'est de dire, après tout, le seul moyen d'avoir vraiment une expérience, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de percevoir ce qui est important. Alors, ce qui est important, ce qui compte. Et donc, ce qui intéresse Cavell dans l'expérience du cinéma, c'est effectivement la façon dont l'expérience du cinéma fait émerger et nous fait voir, en fait, ce qui est important et ce qui compte pour nous. Alors, évidemment, cela peut paraître extrêmement subjectif ou au contraire, un peu plat comme conclusion, comme façon de déterminer donc la valeur de l'expérience et toute la préoccupation de Cavell dans ses textes sur le cinéma, c'est justement de faire comprendre ce qu'il appelle, c'est le titre du chapitre 3 de La recherche du bonheur, ce qu'il appelle l'importance de l'importance. Donc, je vais finir là-dessus. Pourquoi l'importance est importante? Et donc, pourquoi c'est un concept qui n'est peut-être pas du tout aussi vague inintéressant qu'il n'y paraît, puisque c'est vraiment le développement d'une capacité à voir ce qui est important, à voir l'importance des choses, qui permet en fait de redéfinir l'expérience elle-même, la nature de l'expérience, de voir l'apparition et la signification des choses. Je cite un passage d'un texte de Cavell qui s'appelle « Qu'advient-il des choses à l'écran ?» Une très bonne question, d'ailleurs, je ne traiterai pas. Donc, pour répondre à la question « Qu'advient-il à des personnes données en des lieux précis, à des sujets et à des motifs quand ils sont filmés par tel ou tel cinéaste ?» Il n'existe qu'une seule source de données, c'est-à-dire l'apparition et la signification de ces objets, de ces personnes que l'on trouvera en fait dans la suite de films ou de passages de films qui comptent pour nous, qui comptent, alors je pense que c'est matter. Donc en fait il y a une connexion entre la notion d'importance et la notion de compter, c'est-à-dire de matter. Donc formuler enfin les raisons pour lesquelles ces films comptent. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait avoir une attention particulière à la signification de tel ou tel moment. Et je continue le texte de Cavell. S'il est de l'essence du cinéma de magnifier la sensation et la signification d'un moment, il lui appartient aussi d'aller contre cette tendance et de reconnaître cette réalité tragique de la vie humaine. L'importance de ces moments ne nous est pas d'ordinaire donnée pendant que nous les vivons, si bien que cela peut demander le travail de toute une vie de déterminer les carrefours importants d'une existence. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que donc l'intérêt de l'expérience du cinéma, c'est de vous faire comprendre qu'il y a des moments importants. Et effectivement, au cinéma, quand il y a un moment important, eh bien, cela apparaît. Et donc, cela fait comprendre aussi quelque chose de la vie humaine, qui est que, de fait, ces moments importants, eh bien, on ne sait pas. Parfois, on le sait d'ailleurs, mais souvent, on ne sait pas en fait quel est le moment où on les vit. Et donc, l'expérience va être définie par cette capacité donc à voir ce qui compte, et donc par cette attention à l'importance, à ce qui compte donc dans les expressions, les styles personnels d'autrui, et donc c'est vraiment la description de ce qui importe et de ce qui fait la différence, on va dire, dans les vies humaines. Et donc ces différences, c'est cela qui doit être l'objet de la description de la vie, et donc de cette vie humaine que Wittgenstein résume sous l'idée donc de la forme de vie. Et effectivement, l'attention à l'ordinaire, et comme le dit Emerson, ce dont nous voudrions connaître le sens, c'est cela, c'est cette perception donc non pas d'objets particuliers mais de moments d'expression, et de fait la littérature mais aussi le cinéma sont les lieux donc privilégiés de cette perception de ce qui est important. Et donc c'est cela en fait qui permet peut-être de retrouver ou recouvrer, on va dire, le langage ordinaire et cette vie ordinaire dont on a vu comme elle était fuyante et indéterminée. Donc, ce qui permet en fait de se rattacher à cette vie ordinaire, c'est précisément cette capacité d'expérience cette capacité donc de perception de l'importance donc de tel ou tel moment, et cette capacité aussi à savoir, en fin de compte, ce qui compte le plus pour nous. Voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'on a dit avant cette réunion.